Alors 15 août oblige, il y a assez peu de journaux en ce moment, ce matin dans les kiosques. Libération, Le Figaro, La Croix ou Le Canard Enchaîné par exemple ne paraissent pas aujourd'hui. L'Équipe et Le Parisien sont bien dans vos kiosques, tout comme d'ailleurs la majorité des quotidiens régionaux. Bonjour Nasser Madji.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Dans la presse ce matin, après l'effondrement d'un pont à Gênes hier, les journaux tentent de comprendre ce qui s'est passé ce matin.
Et le terme qui revient le plus souvent en une de vos journaux, c'est le mot catastrophe. L'incroyable catastrophe pour Sud-Ouest, le scénario catastrophe, titre Le Parisien, mais aussi l'effroi pour la Provence, la tragédie d'après Midi Libre, l'impensable selon l'Union, l'Italie sous le choc, nous dit Varmatin dans son édition du jour. L'ouvrage, construit par Riccardo Morandi et dont la construction s'est achevée en 1967, était un pont emblématique de la ville de Gênes, dans le nord de l'Italie, mais il a toujours fait l'objet de critiques, relate Le Parisien. La Société Nationale des Routes avait alerté les autorités sur l'augmentation du trafic qui a été multiplié par 4 en 30 ans. Le Parisien qui pose aussi la question d'une éventuelle défaillance liée à la corruption dans le secteur du bâtiment. L'Italie a en effet dû faire face ces dernières années à plusieurs polémiques après qu'une enquête a révélé le recours récurrent à un béton peu cher mais de mauvaise qualité. Les habitants, eux, bien sûr, sont sous le choc et les riverains complètement abasourdis. D'autant plus que beaucoup n'ont pas entendu le pont s'écrouler. Il y avait un tel orage que le bruit de la pluie et du tonnerre ont tout couvert, nous explique Christina, qui est née dans le quartier. À un moment, dit-elle, j'ai vu un hélicoptère de la protection civile tourner autour, alors je suis sortie. Le pont n'était plus là. Le bilan toujours provisoire est d'au moins ce matin 35 morts.
Et quand un entraîneur de football professionnel menace un journaliste.
Oui, à croire que l'univers du foot professionnel rend complètement dingue. Les faits se déroulent vendredi à Boulogne-sur-Mer. C'est un soir de défaite pour le club de Laval qui évolue en National 1. À la fin du match, Martin Cotta, journaliste à France Bleu Mayenne, interroge l'entraîneur du Stade Lavallois, François Ciccolini. C'était quoi le problème ce soir? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Vous vous êtes trompé sur la composition de l'équipe? Question on ne peut plus banale. L'échange qui suit et que retranscrit 20 minutes sur son site internet laisse sans voix. Tu me poses toujours de mauvaises questions, répond au journaliste l'entraîneur corse de Laval. Peut-être que je vais te faire mal. Tu veux que j'aille chercher dans mon sac ce qu'il faut? Tu vas voir, je vais te frapper d'un coup de crosse dans la tête. Le journaliste tente de détendre l'atmosphère. C'est mon chef qui va pas être content si je suis en arrêt maladie. Mais François Ciccolini poursuit. Peut-être que tu n'auras plus d'arrêt tout court. Est-ce que tu veux m'emboîter ou tu veux que je te déboîte? T'en as jamais vu des journalistes avec des sparadraps sur la tête? Ben, peut-être que tu vas en voir un dans pas très longtemps, peut-être même tout de suite, dans 3 secondes. Son club, le Stade Lavallois, n'a pas du tout condamné les propos de son entraîneur et considère même, je cite, que la question posée a été ressentie comme une agression directe par le coach et une défiance au professionnalisme de l'ensemble du staff. Voilà, c'est le monde à l'envers. Une plainte pour menace a été déposée par le journaliste de France Bleu. La commission de discipline de la Ligue de foot, elle, a été saisie. Elle pourra toujours rappeler à l'ancien coach de Bastia, notamment ses responsabilités d'éducateur. Hier soir, Laval jouait en Coupe de la Ligue. François Ciccolini était bien sur le banc de touche.
Et si finalement la planète n'allait pas si mal?
C'est la question que pose en une le magazine L'Obs. L'hebdomadaire se penche sur ce qu'il appelle les nouveaux optimistes. C'est un réseau international d'universitaires qui combat l'idée d'un déclin inéluctable de la planète. Ils sont statisticiens ou psychologues et le plus connu d'entre eux est américano-canadien Steven Pinker. Bien sûr, disent-ils, les guerres, la pauvreté, le populisme, les inégalités, le réchauffement climatique accablent notre monde. Il n'empêche, nous sommes témoins de la plus importante amélioration des conditions de vie que l'homme ait jamais connue. Un point de vue qui se base principalement sur 2 éléments. 1. Nous avons tendance à surestimer le négatif et à idéaliser le passé. 2. Tous les indicateurs chiffrés que vous pourrez retrouver dans l'article « Espérance de vie, santé, nutrition, pauvreté s'améliorent ». Des positions, nous raconte l'Obs, qui font beaucoup réagir dans le milieu intellectuel. Le prix Nobel d'économie, Angus Deaton, par exemple, plutôt proche de ces nouveaux optimistes, rappelle que le progrès n'est jamais linéaire et que nous vivons peut-être tout simplement un répit, un simple répit dans l'histoire de l'humanité. D'autres, comme Noam Chomsky, évoque un optimisme de riche. La référence de la gauche radicale estime qu'au contraire, les inégalités se renforcent et que l'analyse en question justifie in fine le libéralisme. François Cusset, historien des idées, lui est un féroce opposant à Pinker. On se demande où vivent ces gens, dit-il. Ils vendent des tonnes de livres avec des formules marketing du type « ce n'était pas mieux avant », mais ils ne font que projeter sur le monde l'opulence de leur classe. Voilà donc prophète de malheur pour les ou charlatan libertarien pour les autres. On n'est pas obligé de choisir, mais on peut se faire une idée en lisant ce dossier dans l'Obs qui sort demain jeudi.
Et puis on dit souvent que la presse ne parle que des malheurs du monde. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai, Nasser.
Il y a souvent, Eric, des belles histoires qui nous rabibochent avec l'humanité. Celle, par exemple, de ces mamies à Madagascar, héroïnes de la population locale après avoir ramené l'électricité dans leur village. Le récit que nous ont fait le journal Le Monde débute sur la partie occidentale de l'île à Ambakivao. C'est un petit hameau de pêcheurs où vivent 200 familles. Trop isolées, ils ne profitent pas de l'électricité. En 2016, le WWF organise une réunion pour recenser les besoins des habitants et la réponse est unanime. Nous voulons la lumière. L'ONG décide alors de financer un système électrique photovoltaïque. Mais avant, il faut former les habitants à son entretien. Plusieurs grands-mères sont donc sélectionnées. Elles n'ont pas d'enfants à allaiter, elles ne sont pas indispensables au village. Ce sont donc elles qui vont partir direction New Delhi pour apprendre avec une ONG indienne un savoir-faire qui sera bientôt indispensable. Yolande Ranadriana Binina, 58 ans, explique « On a appris à identifier les composants électriques par leur forme et leur couleur. Ensuite, on nous a expliqué comment installer ou réparer les systèmes à énergie solaire. Aujourd'hui, on utilise moins de bougies et plus du tout de lampes à huile qui étaient très mauvaises pour la santé de nos bébés. Autre petit miracle, avoir traversé l'océan en avion et découvert une autre culture a donné à ces femmes une dimension qu'elles n'avaient pas imaginée, raconte Le Monde. Je suis métamorphosée, confirme Yolande, car je maîtrise un savoir qui me donne un statut important dans ma communauté. Je suis fière de ce que je suis devenue. Aujourd'hui, chaque habitant d'Ambakivao peut profiter de la fée électricité pour moins de 2 euros par mois. Et l'année prochaine, Madagascar prendra le relais en ouvrant un centre de formation destiné cette fois à des mamies venues des Comores, du Kenya ou de Tanzanie. Alors, peut-être que oui, finalement, le monde ne va pas si mal.
C'est la bonne nouvelle du jour. Encore un article relevé dans Le Parisien aujourd'hui en France qui fait la promotion d'un documentaire à propos de Michael Jackson. Ce soir, ce sera sur TMC. Michael Jackson aurait soufflé 60 bougies le 29 août. Et pour cet anniversaire, eh bien, il y a ce documentaire. TMC propose la vie du chanteur et quelques l'image d'archives qui dévoile notamment les répétitions de danse ou les Noëls en famille. C'est sur TMC. C'était la revue de presse de Nasser Madji. On va faire un point route avec vous. Élise Thibault, il y a une autoroute coupée en Île-de-France.
Eh oui, l'autoroute A6 fermée tout au sud de l'Île-de-France à hauteur d'Auvernaux en montant vers Paris. C'est suite à un accident mortel survenu sur cette route. Soyez prudents ce matin. Si vous prenez le volant, ça roule bien sur les grands axes, mais plusieurs accidents sont signalés. On en a un notamment en ce moment sur l'A63, quelques kilomètres après avoir passé Bordeaux en direction des Landes. Attention, là, les deux voies de droite sont fermées à la circulation.